Véroa Afrique, Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bienvenue dans cette édition du 30 septembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Un premier débat télévisé houleux hier soir entre Donald Trump et Joe Biden, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine. Au Nigeria, 10 soldats, dont 2 officiers, ont été tués dans une attaque mardi près du lac Tchad. Et au Mali, 2 soldats ont été tués dans une embuscade. En Guinée, le convoi du Premier ministre et directeur de campagne d'Alpha Condé a été attaqué à coups de pierre mardi dans le Fouta Djallon. La justice française a rejeté le pourvoi de Félicien Kabouga, accusé de génocide au Rwanda, validant sa remise à un tribunal d'Arusha en Tanzanie. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Donald Trump et Joe Biden, les deux principaux candidats à la présidentielle américaine du 3 novembre, ont tenu hier leur premier débat télévisé. Devant des millions d'Américains, leurs échanges ont tourné à des insultes et attaques personnelles. Un compte-rendu de Mike O'Sullivan relaté par Michel Joseph.
Pour ce premier débat, le début serein s'est rapidement transformé en échange houleux sur des sujets comme le Covid-19 qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. Joe Biden, le candidat démocrate.
The president has no plan.
Le président n'a pas de plan. Il n'a rien prévu. Il savait depuis février à quel point cette crise était grave.
La réplique du président Donald Trump ne s'est pas fait attendre.
We got the gowns, we got the masks.
Nous avons les blouses, nous avons les masques, nous avons fabriqué des respirateurs. Vous n'auriez pas fait de respirateurs et maintenant nous sommes à quelques semaines d'un vaccin.
Biden a fustigé les efforts de Trump pour mettre fin à la loi sur les soins abordables appelée Obamacare qui fournit une assurance maladie à quelque 20 millions de personnes. Donald Trump répond que cette loi était inconstitutionnelle et limitait le choix des consommateurs. Joe Biden promet que les électeurs pourront conserver leur plan de santé dans le cadre de son projet d'expansion d'Obamacare.
They can. They do.
Ils peuvent. Ils le font. Ils le feront selon ma proposition.
L'échange a rapidement dégénéré, Trump accusant Biden de promouvoir une médecine socialiste.
Obamacare is no good.
Obamacare n'est pas bon. Nous l'avons amélioré.
Autre pomme de discorde, le choix du président Trump de pourvoir un siège à la Cour suprême laissé vacant par la mort de la juge Ruth Bader Ginsburg, une icône progressiste. Monsieur Trump a nommé la juge conservatrice Amy Coney Barrett, lançant un processus de confirmation au Sénat alors que le vote a déjà commencé dans de nombreux États. Joe Biden estime que quiconque gagne en novembre devrait nommer le siège vacant à la Cour suprême.
Le peuple américain a le droit d'avoir son mot à dire sur l'identité du candidat à la Cour suprême.
Trump répond qu'il était de son devoir de choisir une remplaçante, quel que soit le moment.
Nous avons gagné les élections et nous avons donc le droit de la choisir.
Le rideau est donc tombé sur le premier round et 2 autres débats sont prévus en octobre.
Donald Trump et son adversaire Joe Biden retournent sur le terrain après ce premier débat d'une rare agressivité. Le président Trump sera en meeting ce soir dans le Minnesota, tandis que Joe Biden se rend en train en Pennsylvanie. Au lendemain de ce débat, Arzuma Compaoré a recueilli la réaction de Junior Bonpetti, président de l'association congolaise For Trump.
Particulièrement nous les Africains, on attendait des thèmes comme l'immigration et tout ça. Mais sinon, on a parlé des thèmes comme la COVID-19 et c'était le président bien développé. Le président était vraiment impeccable. Il a fermé le pays pour préserver les vies et il a aussi commencé à ouvrir ça au moment opportun. Et aussi, il va parler sur l'économie. Et avant la pandémie, on avait eu la meilleure économie du monde aux États-Unis. Et le président Trump a ramené les taux l'emploi mais le chômage à moins de 3%, à moins de 5%, 3%, et les taux les plus bas depuis 50 ans. Alors, le président a démontré sa capacité, comment réouvrir l'économie, et nous voyons comment l'économie est en train de remettre sur les rails. Et lorsque vous voyez toutes les unions, toutes les associations, des policiers, de l'armée, sont derrière, s'alignent derrière le président Trump. Parce que c'est vrai que la police n'est pas parfaite, Mais nous ne devons pas dénigrer notre police, parce que ces pays sans la police, il y aura un chaos, ça a plus qu'un affaire. Alors nous devons pousser les agents de l'ordre qui sortent nuit et jour pour notre sécurité, ils mettent leur famille, leur vie en jeu. Alors le président Trump est là comme un bon père de famille pour protéger tous les Américains.
Junior Bonpetti, président de l'association congolaise for Trump, et John Linden, adjoint à New York, Dame Babou, président d'African Communication Network, qui suit de près le camp démocrate.
Dit-on, je pense que Donald Trump a cherché dès le départ à énerver le vice-président, ancien vice-président Joe Biden. Et je ne pense pas non plus que Donald Trump était venu avec un plan de débat, c'est-à-dire avec des idées, avec un programme, une justification d'un deuxième mandat. Et je pense aussi qu'il a fini par croire à ses propres déclarations, comme quoi Joe Biden n'est pas physiquement apte, n'est pas mentalement prêt pour être président de la République. Donc ça, je pense que ce sont les premières constatations. Et apparemment, si c'était ça, effectivement, l'objectif de Donald Trump, je ne suis pas sûr qu'il l'ait atteint.
Dame Babou, journaliste et stratège en communication à New York.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Nigeria, 10 soldats, dont 2 officiers, ont été tués dans une attaque djihadiste contre un convoi militaire mardi dans les environs de Marthe, près du lac Tchad. 8 autres soldats ont été blessés dans cette embuscade, indique l'armée. Le convoi apportait des vivres et des équipements à des troupes stationnées dans la zone. Les assaillants se sont emparés de la cargaison et ont mis le feu à 2 véhicules avant de s'enfuir dans la brousse. Au Mali, 2 soldats ont été tués et 6 blessés mardi dans une embuscade dans le centre du pays, a indiqué ce mercredi un responsable des services de sécurité. Les soldats sont tombés dans un guet-apens entre Douenza et Boni, a-t-il expliqué sans évoquer les auteurs de l'attaque. Les attaques contre l'armée se sont poursuivies depuis le coup d'État contre Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août. En Guinée, le convoi du premier ministre et directeur de campagne d'Alpha Condé a été attaqué à coups de pierre mardi dans la région du Fouta Djallon, selon le gouvernement, affirmant que le cortège d'Ibrahima Kassori Fofana a essuyé ses jets de pierre à l'Abéa d'Alaba. Cette région est un bastion de Sélou d'Alain Diallo, principal adversaire du président sortant à l'élection du 18 octobre. L'UFDG, le parti de Sélou d'Alain Diallo, dit n'avoir rien à voir avec ces incidents. La Cour de cassation française a rejeté le pourvoi de Félicien Kabouga, accusé d'avoir financé le génocide au Rwanda et arrêté en mai près de Paris, validant ainsi définitivement sa remise à la justice internationale. La juridiction a confirmé la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris, qui a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt visant à transférer Kabouga à Arusha, en Tanzanie, où siège le tribunal onusien qui doit le juger. Nous y reviendrons dans la rubrique des dossiers du jour. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir ouvert une enquête sur des accusations d'agression sexuelle liées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en RDC. Nous ne tolérerons aucun comportement de ce type parmi nos employés, nos sous-traitants ou nos partenaires, a déclaré l'OMS, soulignant que toute personne impliquée devra faire face aux conséquences de ses actes. En Égypte, 6 membres des Frères musulmans ont été condamnés à mort par un tribunal de Zagazig pour des meurtres de policiers. 5 étaient jugés par contumace, 7 autres personnes ont été condamnées à des peines de 5 à 10 ans de prison. Le chef du Pentagone, Mark Esper, est à Tunis, première étape d'une tournée au Maghreb pour réaffirmer l'engagement des États-Unis dans la région. La défense américaine, qui forme et équipe l'armée tunisienne pour la lutte antiterroriste, a investi 1 milliard de dollars dans ses opérations. Le gouvernement tunisien a assuré qu'il n'y aurait pas de base américaine dans le pays. 300 Marocains bloqués dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla depuis la fermeture de la frontière avec le Maroc en raison de la pandémie ont pu revenir dans leur pays. 200 personnes ont commencé à quitter Melilla en gardant les distances de sécurité, indiquait un porte-parole de la préfecture. Un autre groupe partira vendredi afin de laisser le temps aux autorités marocaines de faire des tests de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron reçoit ce mercredi à Paris son homologue kényan Uhuru Kenyatta pour renforcer les relations économiques entre les deux pays, notamment par la signature de 3 contrats d'infrastructures attribués à des groupes français. L'Irak dit ne pas approuver la menace de Washington de fermer son ambassade et de retirer ses soldats et diplomates du pays. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, un retrait américain pourrait mener à plus de retraits d'autres pays également engagés dans la lutte contre le groupe État islamique, ce qui serait dangereux car ce groupe menace l'Irak mais également toute la région. Bagdad dit espérer que les États-Unis reviendront sur leur décision qui est pour l'instant préliminaire, a encore dit le chef de la diplomatie irakienne. Plusieurs sources politiques et diplomatiques ont confirmé à l'AFP que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo avait posé la semaine dernière un ultimatum à l'Irak, soit les attaques, notamment les tirs de roquettes visant son ambassade à Bagdad, cessent, soit Washington ferme son ambassade et rappelle ses 3000 soldats et ses diplomates. D'octobre 2019 à juillet 2020, une quarantaine d'attaques à la roquette ont visé l'ambassade américaine et des bases irakiennes abritant des soldats américains. Les attaques contre les intérêts américains sont depuis quelques mois revendiquées par d'obscurs groupes qui disent agir pour bouter hors d'Irak ce qu'ils appellent l'occupant américain.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nani Talani.
Le Ghana a produit 770 000 tonnes de cacao cette année, soit une baisse de 42 000 tonnes par rapport à l'an dernier. Ce volume représente le plus faible niveau de production de l'or brun enregistré par le Ghana depuis 5 ans, rapporte l'agence Bloomberg. D'après les autorités, ce recul s'explique par des épisodes de sécheresse et les ravages du virus du Solen Shoot dans les plantations, surtout dans la région du Nord-Ouest. Le Nigeria suspend pour 2 semaines la hausse des prix de l'électricité pour apaiser les syndicats qui ont menacé d'appeler à une grève générale. Les tarifs étaient passés de 33 à plus de 60 naira par kilowatt, alors que le gouvernement cherchait à renflouer ses caisses vidées par la crise économique. L'augmentation a déclenché la colère des Nigérians qui estiment que les subventions de l'essence et le faible coût de l'électricité sont les seuls bénéfices qu'ils retirent de leur pétrole. Pour terminer, la compagnie aérienne nationale namibienne veut réduire de moitié les salaires de son personnel alors qu'elle se prépare à reprendre ses vols après 6 mois d'interruption. La pandémie a exacerbé les difficultés financières d'Air Namibia qui n'a pas enregistré de bénéfices ces 5 dernières années. La compagnie vit des aides gouvernementales et a besoin d'environ 414 millions de dollars pour rester en vol. Elle a 10 avions et environ 800 employés.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Bonsoir à tous. On commence par du football. À RDC, la reprise du championnat de football, c'est dans quelques jours. Et selon nos confrères de Foot Africa, le TP Mazembe s'active sur le marché des transferts. Ce mercredi, les corbeaux de Lubumbashi ont ainsi officialisé pas moins de 4 arrivées. D'abord, celle de Cédric Martial Zemba Ikongo, âgé de 21 ans. Ce milieu de terrain camerounais arrive en provenance d'Apedias FC de Moufou du Cameroun. Il a signé jusqu'en septembre 2025, selon Foot Africa. En parallèle, le TP Mazembe a officialisé l'arrivée de Mustapha Kouyaté, âgé de 26 ans. Cet attaquant guinéen a été recruté à Muscat Club d'Oman et débarque avec l'étiquette du successeur de Jackson Muleka, vendu au Standard de Liège. Il a également signé pour 5 ans, d'après Foot Africa. Neymar, la star brésilienne du Paris Saint-Germain, est inscrit sur la liste noire du fisc espagnol pour une dette dépassant les 34 millions d'euros, selon un document officiel énumérant les mauvais payeurs publics mercredi sur le site du Trésor public espagnol. Le nom de Neymar da Silva Santos Jr. apparaît ainsi parmi des milliers d'autres sur une liste de débiteurs auprès des finances publiques espagnoles pour un montant de 34 624 000 euros, faisant de lui le particulier ayant la dette la plus importante auprès du Trésor public espagnol. Et Lionel Messi qui demande que tous les supporters de Barcelone s'unissent pour mettre un point final au désaccord possible au sein du club dans une interview à paraître ce mercredi dans le quotidien Sport. Après tant de désaccords, j'aimerais mettre un point final. Tous les supporters de Barcelone doivent s'unir pour penser que le meilleur est à venir. L'estime la star absolue du club Blaugrana, finalement resté au Barça après avoir exprimé le souhait de partir cet été. Messi avait demandé à son club de toujours de résilier son contrat courant jusqu'en juin 2021 en vertu d'une clause de départ qui, selon le club, n'était pas valable cet été. Début des finales NBA ce soir, le capitaine de Miami Heat, Jimmy Butler, assure que son équipe ne se considère pas comme un outsider à l'heure d'affronter en finale NBA les Lakers de LeBron James qui ont les faveurs des pronostics. « On est une très bonne équipe, c'est tout », a déclaré Butler ce mardi lorsqu'on lui a demandé d'évaluer le statut du Heat. « Je ne vais pas dire que nous sommes meilleurs que quiconque, mais je ne pense pas que nous soyons des outsiders, vraiment pas. » Il n'en reste pas moins que la présence du Heat en finale n'était pas vraiment attendue, ni par les observateurs, ni par les bookmakers.
Merci beaucoup Bagassi pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Guinée, des heurts ont opposé mardi les forces de l'ordre à des manifestants contestant la candidature du président Alpha Condé à un troisième mandat. En Côte d'Ivoire aussi, la perspective d'un troisième mandat pour le président Alassane Ouattara fait craindre des violences. Dans une déclaration commune, des organisations de la société civile ouest-africaine se disent inquiètes pour la stabilité de la sous-région. Mohamed Oumfa a joint à Dakar Aliou Sané, coordonnateur du mouvement Yen Amar, signataire de cette déclaration.
Cette problématique des troisième mandats est un vrai cancer pour la sous-région ouest-africaine. On voit actuellement ce qui se passe en Guinée. Alpha Condé force un troisième mandat, malgré le refus du peuple qui se mobilise, peut créer une situation d'instabilité en Guinée. À cause de ce projet de troisième mandat de Ouattara, s'il y a de l'instabilité en Côte d'Ivoire, aucun pays de la sous-région ne sera épargné. Et on voit aussi toute la situation d'insécurité avec les menaces terroristes, le djihadisme dans certaines zones de notre sous-région, créer une instabilité dans nos pays de la sous-région. Ça crée le terreau en fait qui favorise l'avancée en fait de tout ce qui est djihadisme et terrorisme. Vous voyez ce qui se passe au Mali avec toutes les difficultés qu'il y a. Vous voyez au Sénégal, avec Macky Sall qui n'est pas encore clair sur cette question-là, les gens soupçonnent cette volonté-là.
Oui, en Guinée, justement, les manifestants s'opposent des plusieurs forces de l'ordre. En Côte d'Ivoire, plusieurs partis de l'opposition appellent à la désobéissance civile. Est-ce que pour vous, c'est la meilleure façon de résoudre ce problème de mandat? Comment faire?
Pour nous, la clé, c'est les citoyens de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO des citoyens et des peuples puisse harmoniser en fait ses positions, y aller ensemble dans le cadre d'une dynamique des peuples de la sous-région pour barrer la route en fait à tous ces projets de troisième mandat. Parce qu'en fait, c'est les présidents, c'est comme s'il se passait le mot, il y a un phénomène de contagion qu'il faut stopper et la meilleure manière de la stopper, c'est qu'il y ait cette forte coalition en fait des peuples de la sous-région à travers toutes les organisations de la société civile et aussi les mouvements citoyens qui vont, dans les semaines à venir, avoir un agenda commun et poser des actes unitaires à l'échelle de l'espace CEDEAO.
Dans une déclaration des organisations de la société civile ouest-africaine, vous invitez les Nations Unies à passer du principe de subsidiarité à l'action directe. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Mais en fait, à chaque fois que le FNDC ou dans nos pays, les dynamiques citoyennes qui font face en fait au tripatriage constitutionnel ou au projet de troisième mandat, qui subissent en fait les exactions de ces tyrans-là. À chaque fois que l'ONU est saisie, l'ONU dit non, c'est la CEDEAO qui est compétente, qui doit se déployer, mais on sait que la CEDEAO ne fera rien du tout parce que la conférence des chefs d'État est composée pour la plupart de ces chefs d'État même qui constituent le problème, qui veulent briguer un troisième mandat. Donc du coup, l'appel à l'endroit de l'ONU, c'est de prendre ses responsabilités, donc c'est ça.
Aliou Sané est le coordonnateur du mouvement Y'en a marre au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
À un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire, l'opposition qui est contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara continue de menacer de boycotter l'élection, tandis que le président sortant affiche sa volonté de rassurer sur la tenue du scrutin prévu le 31 octobre. Notre correspondante à Abidjan, Aïcha Diarra, dresse un plan du climat politique actuel dans le pays.
Le président ivoirien Alassane Ouattara, lors de ses nombreuses tournées à travers la Côte d'Ivoire, a rassuré les Ivoiriens quant à la bonne tenue des élections présidentielles dans la paix et la tranquillité. Cependant, l'un de ses adversaires politiques, Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale, dit tout le contraire.
Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire si le cadre électoral n'est pas transparent, démocratique et inclusif.
Des menaces qui sont appréhendées de différentes manières par les Ivoiriens. Abdoulaye Cissé, résident au quartier Belleville de Boaké, dit garder toute sa sérénité pour ces élections à venir.
Ce ne peut rien ménager. S'il va ménager, il n'a qu'à venir. Saisir les nez, c'est son pays. Si tu viens, tu vas ménager. Ah, on va voir ceux qui vont lucir.
Allant dans le même ordre d'idée, Mawa Ouattara, résidente à Boaké, Air France, dit ne pas tenir compte des bruits qui courent.
Je n'ai pas du tout peur des élections. Parce que avec les rumeurs, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il y a d'autres qui sont là, qui parlent pour faire peur aux gens. Ça, on le sait.
Kassim Ouattara, lui, il est du quartier commerce de Boaké. Il se réfère au passé de crise de la Côte d'Ivoire pour justifier sa sérénité pour ses élections à venir.
Personne ne peut nous dire ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous, on était à Boaké. Ça a commencé, ça. Nous, à la fin, nous, on était à Boaké. Donc, on sait ce qu'est la guerre. Ceux qui parlent de la guerre, là, ils ne connaissent pas la guerre.
Certains, malgré la peur au ventre, essaient de vivre comme si de rien n'était. Moussa Kofi est un résident du quartier Belleville de Boaké.
À vrai dire, une petite psychose, je peux dire. Voilà, on essaie d'être positif, mais bon, ça et là, il y a des sorties de certaines personnes de la classe politique qui nous font un peu peur, voilà. J'essaie psychologiquement de passer la chose, vu les antécédents qu'on a eus, voilà. On n'a pas envie de se replonger, soit même vers le bas. On essaie de penser vraiment positif.
Une peur qui tend à affecter la vie de certaines personnes, à l'image de Mam Ndiaye du quartier Dar es Salaam, qui a du mal à inscrire ses enfants en cette rentrée scolaire.
Depuis l'école a commencé, je ne suis pas partie inscrire mes enfants. Vraiment, je suis peur un peu. Mes enfants, même, ils sont en train de m'encourager pour dire que maman, on va partir à l'école, ça va aller, tant, mais vraiment, je suis paix.
C'est la période de la pré-campagne en Côte d'Ivoire. La campagne électorale est prévue pour le jeudi 15 octobre à minuit et prendra fin le jeudi 29 octobre à minuit. Pendant ce temps, l'opposition ivoirienne s'est unie en un front pour faire barrage à la tenue des élections du 31 octobre 2020. Aïcha Diarra à Boaké pour VOA Afrique.
La Cour de cassation de Paris a confirmé la remise du présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuga au mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux à Arusha en Tanzanie. Cette instance a été créée pour poursuivre les affaires non jugées par l'ETPIR depuis sa dissolution. Kabuga a été arrêté récemment, donc en mai, près de Paris, après 25 ans de cavale. Eric Manirakiza a joint à Philadelphie le chercheur sur les questions de génocide Jean-Pierre Karegué.
Tristement important, dans le cas du génocide contre les Tutsis, comme vous savez, il est considéré comme le financier du génocide. Il a importé beaucoup de tons de machettes. Il était un des principaux actionnaires de la radio-télévision de Nicoline. etc. Et puis se charger aussi du transport des miliciens. Donc pour plusieurs raisons, je crois que avoir quelqu'un et qui est considéré comme un des cerveaux du génocide, c'est important. Et je dirais que ça aurait été même beaucoup plus important qu'il soit jugé au Rwanda.
Il a réussi à échapper à la justice pendant au moins 25 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une justice tardive aujourd'hui?
Oui, s'il a pu s'échapper, c'était avec la complicité de plusieurs gouvernements dans plusieurs pays, commençant d'abord par le Kenya, le Congo de l'époque, le Zaïre donc, et plusieurs pays, la France bien sûr, et plusieurs pays du monde. Donc, et il n'y a pas que Kabuga. Quand on dit tard, oui, tard, mais parce qu'il y a aujourd'hui plusieurs génocidaires qui sont encore protégés dans le monde, dans plusieurs pays.
Kabuga reste un présumé innocent. Aujourd'hui, on parle qu'il y a de nombreuses inconnues qui planent avant un procès. Quel est votre commentaire?
Au moment où il n'est pas encore jugé, il reste présumé innocent, ça c'est un fait. Mais déjà en 2011, je crois, et le tribunal pénal international pour le Rwanda, donc il y avait déjà au moins 7 charges, 7 chefs d'accusation contre Kabuga.
Son arrestation ou son jugement, est-ce une victoire contre le génocide? Comment vous l'interprétez?
Je dirais que c'est justice pour les victimes. C'est important dans la mesure où les victimes tutsis, ils sont des humains et puis... On se disait que c'est passé au Rwanda aussi devrait concerner n'importe qui partout dans le monde. C'est important surtout actuellement où il y a un mouvement négationniste qui prend racine dans plusieurs pays et qui se développe. Quand il y a des gens de plus en plus et non plus honte, sans vergogne, se permettent par exemple de nier ce génocide ou de s'attaquer encore aux Tutsis, de dire que j'étais un refait, ils le feraient. Donc de plus en plus, vous allez en ligne, il y en a, et c'est effrayant. Et des gens à visage découvert, ils s'attaquent, ils disent voilà, et, allez tuer tous les Tutsis, ça se dit encore. Et je crois que pour un tribunal pénal international ou la communauté internationale, pour donner sens même à l'arrestation de Kabuga, consisterait aussi à faire arrêter d'autres génocidaires qui courent par-ci par-là et surtout s'attaquer vraiment au négationnisme. Et ce serait une façon de prévenir d'autres massacres ou de génocides.
Jean-Pierre Carré-Gueye, chercheur sur les questions de génocide et professeur au Collège Dickinson en Pennsylvanie.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, le premier débat télévisé Trump-Biden. À un peu plus d'un mois de la présidentielle, les deux candidats vont croiser le fer sur des sujets comme la pandémie de Covid-19, les questions raciales, les violences dans les villes, l'intégrité du système électoral ou encore la Cour suprême. Le premier débat se tient alors que le vote a déjà commencé dans certains États. Nous analyserons les performances des deux candidats avec nos invités ce jeudi 1er octobre à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir ouvert une enquête sur des accusations d'agression sexuelle liées à la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Nous ne tolérons aucun comportement de ce type parmi nos employés, nos sous-traitants ou nos partenaires, a déclaré l'OMS, soulignant que toute personne impliquée devra faire face aux conséquences de ses actes.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Très bonne soirée à toutes et à tous.